Merci à tous. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de Jésus-Christ soient sur nous. Amen. Voilà, on est heureux de voir Chantal parmi nous. Hein, que Dieu te bénisse, ma sœur. On a prié pour toi et on est très heureux de te voir là. Hein, on doit se réjouir, n'est-ce pas, pour ces choses-là. Vous savez, il y a dans la parole de Dieu, il y a des... Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a des principes. Et il y a un principe spécialement qui s'appelle le principe de la discrimination. Discrimination, il ne faut pas l'utiliser comme le monde l'utilise. Hein? Discrimination à l'encontre de quelqu'un, n'est-ce pas? Être traité mieux que par rapport à une autre personne. Il y a ce principe dans la parole de Dieu, qu'il dit, c'est un principe par lequel on divise la parole de Dieu afin de faire une distinction là où Dieu fait une distinction. Et si Dieu fait une distinction, il n'y a pas de discrimination comme nous, on l'entend. N'est-ce pas? C'est-à-dire que, par exemple, la différence entre créature et enfant de Dieu, entre accepter et être acceptable, entre autres, j'en ai ici plusieurs, et entre possesseur et possédant. Voilà, et il y en a tant d'autres. Mais aujourd'hui, j'aimerais que vous parliez du rôle du croyant. Vous voulez, il y a les croyants et les non-croyants. Les sauvés et les non-sauvés. Encore une fois, c'est Dieu qui fait la distinction sur ces choses-là. Et j'aimerais que ce matin, voir qu'est-ce que c'est que les croyants, ils ont à eux-mêmes en devenant croyants. Mais qui c'est un croyant? C'est pas celui qui croit en Dieu, mais c'est celui qui s'est tourné vers Dieu pour être pardonné, lavé, purifié, et tout cela par et grâce à Jésus-Christ. Car Jacques nous dit que le diable, il croit en Dieu, mais il n'est pas sauvé pour autant, n'est-ce pas? Et donc, on va voir qu'est-ce que c'est que les croyants, ils ont par rapport aux non-croyants. Mais c'est surtout sur les croyants, parce que nous, on est croyants, et nous devons savoir ce que Dieu nous donne, ce que nous avons en tant que croyants. Et pour cela, je vous invite à ouvrir dans 2 Corinthiens, c'est un verset que tout le monde il connaît, hein, chapitre 5. 2 Corinthiens 5, et le verset 17. C'est un verset qu'on connaît, qu'on répète très souvent. Hein, mais il a, ce verset, toute sa signification. Hein? Voilà ce qu'il dit, c'est vrai. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle créature, une nouvelle création. Une nouvelle création. Les choses anciennes, ils sont passés. Toutes les choses qu'il doit faire en croyant quelqu'un qui est né de nouveau, cette nouvelle créature, il doit vivre différemment de ce qu'il a vécu. Bien sûr, comme on en a parlé ce matin, on peut faire encore des choses qu'on faisait auparavant. Mais en tant que croyant, en tant que chrétien, on a en nous le Saint-Esprit, et ce Saint-Esprit, il nous fait retourner vers le Seigneur pour demander pardon, et tout de suite, cette communion, elle est reprise avec Dieu. C'est une nouvelle créature. Voilà pourquoi il y a la différence, comme je vous ai dit, entre créature et enfant de Dieu. Qui c'est la créature de Dieu? Dieu, il est créateur. Dieu, il a créé le monde. Il a créé l'homme et la femme. Et l'humanité, ils sont des créatures de Dieu. Mais par contre, La différence avec un enfant de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ, celui qui s'est reconnu coupable, celui qui s'est repenti, celui qui s'est converti, c'est celui qui vit cette vie nouvelle en et par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que nous avons, nous, en tant que croyants, en tant que nouvelle création en Jésus-Christ? Toujours dans le même chapitre, le verset 1, chapitre 5, mais lisons le verset 1. Il dit, « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Voilà l'assurance. Il dit, nous savons en effet, nous qui sommes croyants, nous qui sommes chrétiens, nous avons cette assurance que si cette tente dans laquelle nous habitons, si nous mourons, voilà pour dire les mots, beaucoup ils n'aiment pas ces mots, mourir, hein? Mais si nous mourons, si cette tente dans laquelle nous sommes est détruite, si nous mourons, nous avons une habitation éternelle dans le ciel. Et ça, c'est une assurance. Voilà pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui, si je meurs maintenant, je vais au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus, il m'a préparé une place. Ma place est réservée. Un peu comme on va au restaurant, on donne un coup de fil, on est 3 personnes, on est 4 personnes, réservez-moi une table. La table est réservée. Les arts qui ont été versés, c'est le sang de Jésus-Christ. Nous avons cette assurance. C'est ça l'assurance du chrétien. Demandez en dehors des chrétiens, ceux qui ont Jésus dans leur cœur, quelle est leur assurance? Ils diront, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et par contre, lorsque nous disons, j'ai cette assurance que si je meurs, je vais au ciel, il te dit, mais tu n'es pas un peu orgueilleux de dire ça. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Christ, c'est la parole qui me dit ça. Hein? Jean, il a dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, pas vous aurez la vie éternelle, vous avez la vie éternelle. Bien sûr, nous mourrons, cette vie-là, il va être coupée, mais la vie continue, parce que la vraie vie, pour nous chrétiens, c'est ça l'assurance que nous avons, que la vraie vie, il commence à notre mort. D'ailleurs, Apocalypse nous le dit, plus de deuil, plus de pleurs, plus de souffrances. Voilà, c'est ça l'assurance que nous avons en tant que croyants. Et nous devons le vivre cela. Comment est-ce qu'on le vit? Mais à travers la parole de Dieu. Regardez autre chose par rapport à nous, le verset 2 au verset 4. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Voilà l'assurance que nous avons que si nous mourons, nous allons au ciel. Et il continue. Ici, dans le verset 2 au 4, on voit les désirs du croyant. Les désirs. Vous êtes ici assis, nous sommes ici. Est-ce que vous ne préfériez pas être auprès du Seigneur? Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit... Aussi, en sachant cela, qu'un jour nous serons avec le Seigneur, nous le verrons tel qu'il est, nous serons éternellement avec lui, aussi nous gémissons dans cette terre. Oui, nous sommes des fois dans la tristesse, dans la peine, dans les besoins, nous gémissons. Hein? désirant revêtir notre domicile céleste. Nous désirons tous, en tant que chrétiens, être auprès de notre Seigneur. Je vous l'ai dit souvent, le petit martien là, hein, E.T., je ne parle pas anglais, hein, vous avez compris. Hein. Il y avait ce jeune garçon là, qui le voyait triste. Il a dit, mais pourquoi tu es triste? Tu as tout ici. Et lui, il disait, maison. Il voulait rentrer à la maison. Et le ciel, mes chers frères et sœurs, c'est notre maison. C'est là, encore une fois, que le Seigneur nous a préparé cette place. Pas ici-bas. Ici-bas, nous n'avons rien. Abraham, Dieu lui a promis cette terre de Canaan. Il y est rentré, mais il n'a jamais rien possédé. Pourquoi? Parce que lui, il voyait la cité céleste. Il voyait le ciel où est-ce qu'il était Dieu. Et c'est ça ce que nous devons avoir. Le désir du chrétien, c'est d'être auprès de notre Seigneur et notre Dieu. C'est un peu comme pour ceux qui ont fait le militaire, qu'ils ont laissé leur dulciné, comme on dit. Hein. Qu'est-ce qu'il attend? Qu'il rentre en congé, en permission, pour rentrer, pour être avec elle, ou avec les parents et tout ça. On ne voit pas l'heure que... Nous devons être comme ça. Et chaque fois que nous avons des tentations tout autour de nous, c'est dire... Si je fais ça, peut-être que le Seigneur il va venir là, il va me prendre là, et il ne va pas être content. C'est ça notre désir, d'être auprès de notre Seigneur et notre Dieu. Chose qui n'ont pas ceux qui n'ont pas le Seigneur. Ils te disent, après la mort, il n'y a rien. Alors mangeons et buvons. Amusons-nous bien. Nous avons cette assurance et ce désir. Pourquoi? Parce que Dieu il nous l'a donné. Et nous savons que Dieu, il ne ment pas. Dieu, il ne ment pas. Heureusement, lorsque Dieu dit quelque chose, cette chose, il va arriver. Il ne se rétractera jamais. Mais continuons à une autre chose qu'il a les chrétiens, les croyants. Verset 6 au verset 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurerons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. En ayant cette assurance et ces désirs, nous sommes pleins de confiance. Il peut m'arriver n'importe quoi. Mais j'ai cette confiance en ce que Dieu m'a dit dans sa parole. Beaucoup, ils disent, je ne sais pas ce que Dieu me dit dans la parole, mais Dieu nous a donné la Bible pour que justement nous puissions voir ce que Dieu il a en réserve pour chacun de nous. Dieu, il ne nous promet pas des choses sans nous les montrer. Dieu, il nous dit ce qu'il est en réserve pour tous ceux qui se tournent vers lui. Et voilà pourquoi il dit, nous sommes pleins de confiance. Et il dit, nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Quelle chose merveilleuse d'être auprès de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a aimés. Nous qui ne méritions rien. Beaucoup, ils se disent, « Ah, mais j'ai fait du bien, moi. » Et donc, Dieu, il doit faire attention à moi. Il n'a rien à faire avec toi, mon pauvre. Car tout ce que Dieu nous donne, c'est par grâce. Si vous êtes ici, assis, c'est par grâce. Peut-être que vous avez été invité, peut-être que vous passiez là, et vous êtes là. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce que Dieu vous donne de pouvoir écouter, entendre sa parole. Parce que Dieu, il aime les pécheurs. Il n'aime pas les péchés. Mais il aime les pécheurs. Pourquoi a-t-il envoyé Jésus-Christ? C'est justement parce qu'il aime les pécheurs. car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Est-ce que nous l'aurions fait cela? Ça m'étonnerait. Mais Dieu, il l'a fait parce qu'il nous aime. Ah, tu dis que Dieu nous aime, regarde ce qui arrive dans ce monde. Mais ce qui arrive dans ce monde, ce n'est pas Dieu qui le fait. C'est la méchanceté de l'homme. C'est la méchanceté de l'homme. C'est que l'homme, il pense à lui-même. Dans la première église, lorsque l'église elle a été formée, il y avait des gens qui se sont convertis, ils voyaient tout autour d'eux dans l'église, surtout dans l'église, parce que premièrement l'église, ils voyaient des gens qui étaient dans les besoins, s'ils avaient des possessions, ils les vendaient et ils les donnaient aux apôtres pour qu'ils puissent faire la distribution, pour que tous, et nous est dit dans Actes qu'il n'y avait personne qu'il avait des besoins. Et ainsi, il fait Dieu. Vous savez que Dieu, toutes les bénédictions que Dieu déverse sur tous ceux qui lui appartiennent, par ces bénédictions, nous faisons usufruire cela de ceux qui ne le connaissent pas. Parce que Dieu, les bonnes choses, il les donne pour ses enfants. Mais tout le monde en profite. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Comme je dis ce matin, Dieu en regardant ce monde, je suis sûr qu'il est en train de pleurer. Parce qu'il a tout fait pour sauver le monde. Il a tout donné. La chose la plus importante qu'il avait, son propre fils, il a tout fait. Et qu'est-ce qu'il reçoit? Rien. Les gens, ils ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Si vous avez des amis, vous l'avez fait l'expérimentation comme moi. À un certain moment, il faut parler de Christ. Paul, il nous dit qu'il y a toute occasion. Et à un certain moment, parce qu'ils vous connaissent, que chaque fois vous sortez la vôtre, hein, dans la croyance à Dieu, lorsque vous prononcez le mot Dieu, ils vous disent, ah non, 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 arrête, hein, ne me parle pas de Dieu. Mais pourtant, si on enlève Dieu de notre vie, de la vie, qu'est-ce que c'est qui nous reste? Mais rien. Rien. Voilà l'assurance du croyant, les désirs du croyant, la confiance du croyant. Mais regardez le verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurions dans ses corps, soit que nous le quittions. L'ambition du croyant. L'ambition. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, des dieux. Donc, quelle est notre ambition? C'est de lui être agréable. Et comment on peut être agréable? C'est en faisant ce qu'il nous demande. Nous sommes des ambassadeurs. Nous avons un message à apporter. Pas le message d'Aldo. Parce qu'Aldo, il n'est rien. Mais le message de Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous a dit toujours, Seigneur, que lorsque je dis quelque chose, que cette chose, il vienne de ta parole, pas de la mienne. Parce qu'à moi, il n'y a rien. Tout vient de Dieu. D'ailleurs, je vous l'ai toujours dit, lorsque je dis quelque chose qui n'est pas biblique, il faut se lever et me le dire. Moi, je l'ai fait. Moi, je l'ai fait ailleurs, pas ici. Hein, parce qu'ici, c'est moi qui prêche. Je l'ai fait. Parce qu'il faut avoir ce zèle-là. Il faut défendre la parole de Dieu. Parce que nous avons, en nous, nous avons cet esprit de Dieu. Et lorsqu'on entend quelque chose qui n'est pas biblique, il faut avoir le zèle. On l'a vu ce matin. Il y a la colère, le péché, la colère. Mais il y a aussi la juste colère. Jésus-Christ, en chassant les gens du temple, lorsqu'il parle contre les pharisiens, il les appelle « race de vipères ». Voilà, c'est... Mais nous ne pouvons, mais nous devons avoir le zèle de dire non, c'est pas ça. Dieu, il nous dit, il nous a donné un livre et nous devons le défendre. Parce que vous croyez pourquoi Dieu est-ce qu'il nous a sauvés? Pour qu'on reste assis sur nos chaises ou à la maison, on attend le dimanche pour aller à l'église. Dieu nous a sauvés pour le servir. Moi, je suis la main, la bouche, le pied de Dieu. Il œuvre par moi, comme par vous. Nous sommes là pour servir, pour travailler. Hein, les ouvriers de l'onzième heure, vous vous en souvenez? Ils étaient là, ils n'avaient pas de travail. Le Seigneur arrive et dit, qu'est-ce que vous faites là? Personne ne nous a bauché. Allez dans ma vie. Et à la fin, il leur a donné le même salaire que celui qui a commencé à 5 heures. Nous sommes là pour servir. Vous me direz, nous sommes au service du Seigneur. Notre retraite sera la mort. C'est là notre retraite. Et pas se dire, ah, je suis vieux, là, je peux me reposer. Il n'y a pas de repos. Parce que Jésus, il ne s'est pas donné du repos jusqu'à la fin. Dans le jardin de Gethsémané, on parle toujours de Jésus à la passion, lorsqu'il a été fouetté, lorsqu'ils l'ont craché sur lui. Mais déjà, la douleur a commencé au Gethsémané, là. C'est là qu'il a sué les sangs, là, parce qu'il voyait tous ces péchés qui accablent le monde. Et il est venu là pour assouvir sur lui cette colère de Dieu. D'ailleurs, à un certain moment, en tant qu'homme, il s'est demandé, il a dit, « Mais Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. » Vous rendez-vous compte? Avoir sur lui tous les péchés de l'humanité. Et Dieu n'est pas intervenu, hein. Parce qu'il ne pouvait rien faire. Parce que les péchés de l'humanité étaient sur lui. Et ces péchés, il fallait qu'ils soient expiés. Et c'est ce qu'il a fait, Jésus-Christ. Donc c'est là l'ambition des croyants. Travailler. Travailler. Et il nous a dit, Paul, il nous dit, travaillez à votre salut. Pas pour le salut, mais travaillez parce qu'on est sauvé. Quelqu'un dit, je suis sauvé, je suis assis, je reste tranquille. C'est faux. C'est là qu'il faut qu'il travaille. Parce qu'il est sauvé pour remercier le Seigneur. Et on peut voir encore le verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Nous devons tous travailler. Notre ambition, c'est de travailler. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le tribunal de Christ. Ceux qui sont au tribunal de Christ, ce n'est pas par rapport au salut. Parce que si nous sommes au tribunal de Christ, c'est parce que nous sommes sauvés. Mais c'est là que Dieu, il dira, Aldo, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben moi, je suis sauvé, Seigneur. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait de ce salut? Et c'est là que le Seigneur, il va récompenser les mal ou les biens que nous avons faits. Beaucoup, ils diront peut-être, ah, j'ai fait beaucoup de choses. Mais à l'œil de Dieu, cette chose-là, il va passer au feu du jugement. Et Paul nous l'explique bien, ces choses-là. La paille, les foins, il va brûler. Qu'est-ce que c'est qui va rester? Les vraies œuvres que nous avons faites, pas pour nous montrer nous-mêmes, mais pour montrer l'amour de Dieu. Et tout ça, il va rester là, et le Seigneur, il va nous récompenser. Déjà, il nous donne le salut. Quelle récompense attendons-nous d'autres? Aucune. Mais le Seigneur, il est rempli d'amour. Comme il dit David dans les psaumes 23, « Ma coupe déborde. » Il demandait que sa coupe soit pleine. « Seigneur, remplis ma coupe. » Mais il dit, « Ma coupe déborde. » Ça, c'est la grâce de Dieu lorsqu'il donne. Il fait déborder plus loin de ce que nous avons demandé ou de ce que nous souhaitons. Parce que c'est Dieu, ça. Voilà l'ambition. Nous allons être jugés. Comment, dans quel état nous serons lorsque nous serons devant le Seigneur au tribunal de Christ? Qu'est-ce que vous allez offrir au Seigneur qui nous a sauvés? Seulement les couronnes que le Seigneur nous donne. On dit, oui, mais je suis un roi alors. Oui, mais justement, nous enlèverons cette couronne et nous la mettrons aux pieds de l'agneau, en lui disant, tu es digne de recevoir toutes choses. Pas moi, mais toi, oui, voilà, Seigneur, je te le donne. Mais ceux qui ne travaillent pas, qu'est-ce qu'ils vont offrir au Seigneur? C'est ça la récompense du croyant. Mais regardez versets 11 à 15. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour vous, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ici, on voit la persuasion du croyant. Ce n'est pas nous qui persuadons les gens, mais c'est le Saint-Esprit. Mais nous devons le faire, car pour être agréable à Dieu, il faut la sanctification. Il faut que le cœur de la personne soit changé. Donc, il nous le dit, Paul, ici, que nous devons, même si nous passons pour des fous vis-à-vis des autres, nous devons avancer. Nous devons prêcher ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, les gens, ils ne veulent pas l'entendre. Pourquoi? Parce que ce que Dieu dit, c'est le jugement. Si tu ne te comportes bien, je vais être obligé de te tuer. J'ai dit obligé parce que ce n'est pas le travail de Dieu de punir. Lui, c'est un Dieu d'amour. Mais si on ne fait pas ce que Dieu nous dit, il est obligé parce que c'est un Dieu juste et c'est un Dieu saint. Voilà pourquoi nous devons dire aux gens que s'ils persistent dans cette voie, Dieu, il sera dans l'obligation de les punir parce qu'ils n'ont pas écouté ce qu'il a dit. Aujourd'hui, nous disons que ta volonté soit faite, Seigneur. Mais Dieu, lorsqu'il verra les gens qui n'ont pas voulu écouter la vérité, il leur dira que ta volonté soit faite. Je t'ai parlé de mon amour, de ma grâce, tu n'as pas voulu. Tu as voulu suivre de l'autre côté, mais alors que ta volonté soit faite. Ce n'est pas moi qui te condamne, mais c'est toi-même. C'est ça, nous avons cette lourde tâche. Et c'est à moi quelqu'un il a dit ça. Je croyais recevoir quelque chose de Dieu. Parce que soi-disant, j'avais fait à moi-même, je me disais, oui, mais je ne suis pas comme celui-là, je ne tue pas, je ne fais pas ça et ça et ça. Alors, je croyais que Dieu, il devait aimer quelque chose pour les biens que, soi-disant, j'avais fait. Et cet homme-là, c'est un pasteur américain, et il m'a dit, je vais te montrer ce que Dieu va te donner. Est-ce que tu es pécheur? Oui, je suis pécheur, bien sûr. Il ne faut pas. Si on est honnête, il n'y a personne qui peut dire, je ne suis pas pécheur. L'honnêteté, c'est ça. Et il a dit, si tu dis que tu es pécheur, je vais te montrer ce que Dieu il doit te donner. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce que Dieu va te donner. Mais par contre, ça suit le verset, n'est-ce pas? Hein? Mais la grâce de Dieu, c'est là, il peut nous enlever de ce péché. Voilà pourquoi nous devons dire ces choses autour de nous. Jésus, il l'a dit. Les apôtres, ils l'ont dit. Ceux qui nous ont amenés au Seigneur, ils nous l'ont dit. Et nous devons suivre cet exemple-là. Sauf que nous ne le faisons pas. Comme je vous ai dit toujours, hein, dans la première église, dans l'espace de 60 ans, tout l'Empire romain, il avait entendu parler. de Jésus-Christ, de l'Évangile. Tout l'Empire romain, dans l'espace des 60 ans, il est passé 2000 ans. Et il y a des endroits, beaucoup d'endroits, beaucoup de gens qui encore ne connaissent pas le Seigneur. Et nous devons faire tout ce qu'il faut pour ces gens-là, parce que nous y étions. Et si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes croyants aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un, un jour, il est venu nous parler. Voilà ce que nous devons faire. Et ça, c'est les croyants. Et versets 20 et 21, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Encore une fois, ça c'est la mission. Vous savez, entre travail et mission, ce n'est pas la même chose. C'est la mission, c'est quelque chose qui doit être au plus profond de nous-mêmes et que nous devons nous y engager. Ce n'est pas seulement le missionnaire ou les pasteurs ou je ne sais pas quoi, mais c'est la mission de tous ceux qui ont été sauvés. Et qu'est-ce que c'est que nous devons dire aux gens? Comme il dit Paul ici, nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Car si vous ne le faites pas, sa colère, il va s'abattre sur vous. Nous sommes des ambassadeurs. Nous devons leur dire, soyez comme si Dieu, il exhortait. Voilà pourquoi je vous ai dit, je suis la bouche, les mains et les pieds de Dieu. C'est à nous de le faire. Nous parlons aux gens. Ensuite, le Saint-Esprit, il travaille son cœur. Un peu comme le boxeur qui travaille son corps. Le Saint-Esprit, il fait ça. Jusqu'au moment où la personne le dit, oui, il capitule devant le Seigneur. Et c'est ça que Paul, il désire que les Corinthiens, ils aient au plus profond d'eux-mêmes. C'était une église, il nous a dit, dans laquelle il y avait tous les dons. Aucun don ne manquait à cette église. Et pourtant, dans l'église, il y avait le péché. Voilà pourquoi Paul le dit, en tant que croyant, vous avez une assurance. En tant que croyant, vous avez le désir d'être avec le Seigneur. En tant que croyant, nous avons la confiance dans le Seigneur. En tant que croyant, nous avons l'ambition du croyant. Nous avons la récompense aussi du croyant. Nous avons la persuasion du croyant et nous avons la mission du croyant. Avant de monter au ciel, le Seigneur, vous connaissez tous chapitre 28, allez dans le monde entier, propagez la bonne nouvelle. C'est ce qu'il nous dit le Seigneur. C'est là notre mission. Nous sommes tous des missionnaires. Là où nous sommes nés, là où nous travaillons, là où nous exerçons, nous sommes des missionnaires. Voilà pourquoi plusieurs fois nous lisons dans les psaumes, « Ouvre ma bouche !» Ah oui, mais je suis timide. Mais le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et il nous dit que Christ, l'amour de Christ nous presse. Si l'amour de Christ nous presse, nous sommes obligés de parler. Nous sommes obligés. Voilà cette exhortation de Paul, que nous puissions la mettre en pratique. Je suis sûr que parmi vos amis, vos copains, vos amis de travail et tout, il y a des gens qui encore ne connaissent pas le Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'on fait pour que ces gens-là ils puissent éviter d'aller en enfer? L'enfer. Dieu ne peut pas envoyer en enfer les gens si c'est un Dieu d'amour, un Dieu bon. Mais Dieu n'envoie personne en enfer. En enfer, on y va par notre propre décision. Parce que Dieu, il n'a pas créé l'enfer pour l'homme, mais il l'a créé pour le diable. Que le Seigneur nous aide à propager cette bonne nouvelle. et que nous soyons des vrais ambassadeurs pour le Seigneur, pour sa gloire, car bientôt il va revenir. Amen. Amen.